Eh bien, merci Michel, bienvenue à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présent. Je vais être très court également, pour simplement vous expliquer un petit peu que ces deux journées sont organisées par l'UMR Éducation et Politique, qui est une unité de recherche pluridisciplinaire qui comprend des sociologues, des historiens de l'éducation, des personnes qui viennent aussi de la philosophie de l'éducation et du monde des arts et des lettres. Donc c'est un endroit où se croisent plusieurs regards sur des objets communs. Et l'un de ces objets, c'est l'égalité en éducation. Et il nous est apparu, à travers les propositions du socle commun, que cette idée d'égalité était réinterrogée, disons, et qu'il méritait peut-être de proposer un regard un peu rétrospectif sur cette question. Qu'est-ce qui est égal dans l'éducation? Qui est égal devant l'éducation? Sont-ce les élèves qui sont tous égaux? Sont-ce les parcours? Sont-ce les aptitudes que l'on veut leur faire, que l'on veut développer? Sont-ce les compétences que l'on veut leur faire acquérir? Et quelle a été un peu l'histoire de cette idée et ses réalisations complètes ou partielles? Donc le stage s'articule autour de cet effort de réflexion sur certaines pistes aussi qui ont été lancées mais pas réalisées, en particulier dans la période très, très féconde du début du XXe siècle et de l'entre-deux-guerres, jusqu'au début de la période suivante, avant la mise en place des réformes qui ont conduit au système uniformisé actuel d'éducation. Donc on va essayer d'explorer rappeler certaines de ces pistes, rappeler certains travaux qui ont été produits sous l'égide de philosophes, de réformateurs, de politiques aussi, et voir un peu si ces pistes se retrouvent aujourd'hui ou pas dans les orientations qui sont préconisées. Alors l'une des originalités, si je puis dire, de ce stage, je ne me l'attribue pas puisque c'est un travail collectif, c'est d'avoir cherché à favoriser aussi une réflexion croisée entre des praticiens, des personnes qui aujourd'hui sur le terrain expérimentent l'adaptation des programmes nationaux aux élèves, essayent de peut-être mettre en place aussi une politique locale d'éducation qui soit respectueuse de la fois de la diversité et de l'égalité des enfants devant la réussite de leur vie et de leurs études. Donc on va essayer, à travers les ateliers cet après-midi, dont je vais dire un tout petit mot maintenant, de favoriser cette réflexion pour ne pas rester seulement dans l'histoire et dans la philosophie, mais aussi de voir ce qui se passe, ce qui s'expérimente aujourd'hui, ici et maintenant. Alors, je vais dire un mot des ateliers. Je ne vais pas reprendre le descriptif du stage. Vous l'avez, je pense, sous les yeux. Mais je veux parler un peu des ateliers. Il y en a deux. Et je constate, en jetant un petit coup d'œil sur les fiches, que l'un d'entre eux a manifestement plus de succès pour l'instant que l'autre. Donc, je voudrais les présenter très, très brièvement. L'un de ces ateliers sera animé par Jean Fleury. Jean Fleury, pour ceux qui viennent d'autres académies, est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional de sciences économiques et sociales, et il dirige le pôle de soutien à l'innovation et à l'expérimentation dans l'académie de Lyon. Il travaille aussi en relation avec l'INRP et l'UMR Éducation et Politique que dirige Jean-Louis Derouet, mon voisin. À travers le suivi des expérimentations de l'article 24. Et j'ai écrit 24, c'est 34, pardon. Il y aura avec lui cet après-midi... deux chefs d'établissement donc de la région, Jean-Marc Folliet, proviseur au lycée professionnel des Canuts à Vaux-en-Velin, et Annick Tessèdre, principale du collège Victor Grignard à Lyon, donc qui pourront parler de leurs expérimentations, toujours dans le cadre de ce stage sur l'adaptation des contenus d'enseignement de la culture scolaire aux élèves. Et Anne-Marie Benayoum, qui est ici, travaille en recherche au centre Alain Savary, participera également à cet atelier en présentant une petite communication au début sur le maintien des exigences auprès des publics difficiles. Le Centre Alain Savary, vous savez, travaille particulièrement sur cette problématique et d'ailleurs sera également représenté à la table ronde de demain après-midi en la personne de Daniel Frangi. L'autre atelier, c'est tout à fait différent comme conception. On va braquer un peu les regards sur une expérience particulièrement riche, celle du nouvel espace collégien dont Gilles Grosson, qui est là, je le salue, est le chef de projet. Et ce nouvel espace collégien a des objectifs pédagogiques qui nous concernent beaucoup pour ces deux journées de stage. Donner du sens au savoir, je cite quelques-uns d'entre eux, décloisonner les disciplines, diversifier les situations d'apprentissage, prendre en compte la personne en formation, accompagner les élèves dans leur parcours, ouvrir l'école sur l'extérieur. Tous ces objectifs, nous le verrons, vont traverser, je salue Jean Fleury, vont traverser nos réflexions sur les deux journées. Donc je vous invite, à plus nombreux qu'actuellement, à vous inscrire à ce deuxième atelier, donc animé par Gilles Grosson. Je serai d'ailleurs moi-même dans cet atelier, dont je sais qu'il est extrêmement riche et intéressant. Donc si par malheur le déséquilibre était trop grand, je serais amené à demander à certains d'entre vous de bien vouloir basculer. De toute façon, nous sommes un petit groupe, nous aurons le temps ensuite de mutualiser, d'échanger ce qui se sera dit dans chacun des deux ateliers. Voilà, je m'arrête là pour donner la parole à Jean-Louis Derouet qui va introduire le stage et ensuite André Robert qui a un TGV à 11h, donc on va essayer de lui donner le temps de s'exprimer. Merci.
Bon, merci beaucoup. Je vais faire quelques mots d'introduction pour me réjouir. De ce stage, enfin de cette rencontre, qui travaille un sujet important et identifié comme important depuis très longtemps, mais paradoxalement assez peu travaillé, qui est la rencontre de la question de l'égalité et de la question des contenus scolaires. Alors, on peut dire que c'est une chose qui est, qui a été identifiée depuis très longtemps, qui était au centre même des travaux des premiers travaux de Bourdieu quand il a commencé à dire bon bah on est en train de beaucoup travailler sur le streaming, enfin sur l'orientation, etc. Filière, pas filière, etc. Ces questions-là sont sans doute importantes, mais peut-être que les vrais critères de sélection ne sont pas dans ce qui est apparent, c'est-à-dire la manière de classer, etc., mais est dans la nature des contenus eux-mêmes. Alors, il l'a dit très fort, ça a été très fortement repris, mais finalement, très très peu travaillé. Quand on lit Bourdieu, bon, il y a des pages qui sont assez amusantes sur le langage professoral et sur la manière dont le langage professoral peut parler de tout, mais en même temps, en tenant les choses tellement à distance qu'on peut parler de la faim dans le monde, de l'inceste, des enfants battus, etc., mais comme c'est dans un style académique, ça reste des questions académiques, enfin des choses comme ça, bon. Mais en même temps, ces choses-là ont été extrêmement peu travaillées. Il y a eu quelques travaux chez Viviane Edenberg-Jamati, il y a eu la thèse de Lise de Mailly, mais jusqu'aux travaux de l'équipe Escole qui a pris le problème de biais avec le rapport au savoir, il y a eu extrêmement peu de choses. Et je dirais, y compris peu de choses du côté des pédagogues eux-mêmes. Je veux dire que les différentes réformes des collèges ont quand même accordé beaucoup d'attention, et sans doute à juste titre, au style de rassemblement des élèves, groupe de niveau, groupe de besoins, groupe de compétences, etc. Mais on peut pas dire que la question des contenus ait été très très fortement travaillée. Pour l'avoir fortement travaillé, il faut soit, et c'est un des grands mérites de Bruno, regarder la question de l'école unique dans l'histoire, où là, effectivement, à l'origine, les deux questions, celle de l'organisation filière séparée ou filière pas séparée, etc., et celle des savoirs, on essayait avec plus ou moins de bonheur, mais de les penser ensemble, soit prendre les réflexions internationales. Je sors d'un séminaire avec des Américains et des Néo-Zélandais qui étaient sur l'obligation de résultat, et une des choses frappantes, c'est que quand même en Europe, on est très interrogé par l'obligation de résultat, même si on sait qu'il faudra y passer et que nous serons l'olfilisés de gré ou de force, et on voit une comme une tension entre l'obligation de résultat et la tradition d'égalité. Pour les anglo-saxons, il n'y a pas tellement de problème, ou plus exactement, l'obligation de résultat fait bien partie des politiques d'égalité, dans la mesure où ils ont totalement maintenant défini l'égalité comme égalité de résultat. On est passé d'une perspective d'égalité des chances à une égalité de résultat, et dans ce cas-là, l'obligation de résultat de la part des établissements, c'est une obligation d'amener réellement tous les élèves à un certain niveau de compétence, alors à définir, là il y a des problèmes de standards, bon, mais donc pour eux là il n'y a pas de il n'y a pas de tension, et c'est de cette manière, et Suzanne Furman qui l'a bien expliqué, le président Obama nous avons vu dans la politique de Bush une tension entre l'argent qui continuait à être mis effectivement sur les élèves en difficulté, mais en même temps une politique d'élévation des standards qui faisait des standards de compétences qui faisait que même si on aide les élèves en difficulté, à partir du moment où il y a une élévation des standards de compétences, bah, va y avoir un certain nombre d'élèves et un nombre croissant d'élèves qui vont être laissés sur le bord du chemin, puisque c'était le slogan de Bush, « No child left behind ». Bon. Et nos amis qui sont plutôt des démocrates et qui bon, Obama ne voit pas de raison de revenir sur cette politique d'élévation des standards, d'abord parce que c'est la condition pour que les États-Unis gardent leur rang dans une compétition internationale, mais même enfin il n'y a pas cette cette tension que nous ressentons entre une obligation d'élever les standards de compétences et les standards de compétences moyens de la population, et puis l'exigence d'égalité. Là, il y a donc des socialisations politiques qui sont différentes, qui doivent d'ailleurs être. Je vais pas dire il y en a qui sont dans le vrai et d'autres qui sont dans le faux, parce que justement nos amis américains et les néo-zélandais, à partir de l'obligation de résultat, vont opèrent un passage de l'élévation des compétences ou des, à l'évaluation pour les apprentissages qui amène, me semble-t-il, des progrès réels de la pédagogie. Et là aussi, à ce moment-là, on voit bien dans ces exemples-là qu'il faut tout penser ensemble, c'est-à-dire la définition des standards, la politique d'organisation et en particulier le management de l'établissement, le style de leadership de l'établissement, la répartition, le partage du leadership dans l'établissement, en même temps que des questions, je dirais, d'emploi du temps, etc. Donc, moi, je suis particulièrement heureux que cette question, qui est un petit peu un serpent de mer, soit traitée, sous un angle à la fois académique, mise en perspective historique, hein, et sous un angle, qu'est-ce qui se passe dans la pratique, quelles sont les équipes pédagogiques qui travaillent cette question-là. Et tu as bien fait de parler du travail que nous faisons avec le PASI et avec à l'intérieur du travail que nous faisons avec le PASI, l'expérience qui est menée par Gilles Grosson sur le nouvel espace collégien, il me semble que là, et peut-être que le petit nombre de participants peut aider, la rencontre entre la perspective académique et des expériences analysées des académies peut être d'une grande productivité. Je vous souhaite donc à tous un bon travail et